Le principal retrait par rapport à l'édition précédente, c'est le fait qu'il n'y a pas de film.
Bonjour le monde aujourd'hui, Eric Manilakiza avec vous sur VOA Afrique. Depuis Washington DC, bienvenue dans cette édition du jeudi 16 mai 2024, dont voici d'abord les principaux titres. Arrivée au Niger d'une délégation américaine à Niamey pour discuter du retrait de leurs troupes. Au Bénin, un levée provisoire du blocage de l'exportation du pétrole nigérien depuis le port de Semepoji. Funérailles des 35 victimes de l'attaque à Mugunga, appel à la fin de la guerre à Goma.
Ça fait trop mal, nous ne demandons que la paix au président pour que nous vivions paisiblement.
Les États-Unis sanctionnent des commandants soudanais et pressent pour prévenir une offensive au Darfour. Le président Joe Biden et Donald Trump acceptent de débattre deux fois avant l'élection présidentielle de novembre. Le festival de Cannes 2024, sous le signe de la demande de protection sociale des artistes français et le manque de représentation africaine en compétition.
Le principal retrait par rapport à l'édition précédente, c'est le fait qu'il n'y a pas de films africains qui sont en compétition pour la Palme d'Or. Cette édition 2024 est plutôt marquée par une présence sur les catégories prometteurs, comme Cannes Première.
Des responsables américains annoncent une importante aide humanitaire en attente pour Gaza. Ne manque pas notre page sport ainsi que la Minute Echo. Pour l'instant, le journal. Les autorités béninoises ont temporairement levé le blocage de l'exportation du pétrole nigérien depuis la plateforme de Semepoji, ce qui pourrait marquer un début de détente dans la crise entre le Bénin et le Niger. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse conjointe animée par le ministre des Mines, Seydou Adambi, et le représentant de la délégation chinoise en mission au Bénin. Les précisions de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
La liaison Cotonou-Niamey en phase de se rétablir. En tout cas, le Bénin en a donné le ton en levant de façon provisoire l'embargo sur le pétrole nigérien. Le ministre béninois des Mines, Seydou Adambi, fait quelques nuances.
Il est important de noter que cette autorisation ponctuelle et provisoire, telle que mentionnée dans la lettre de la douane nigérienne, ne saurait être érigée en règle de conduite pour l'exploitation normale du pipeline qui doit se faire dans un cadre normal de relations entre États. Le Bénin entend jouer sa partition dans tous les accords signés dans le cadre de ce projet.
Au sein de la population béninoise, beaucoup estiment que le président Talon a de nouveau tendu la main vers la junte au pouvoir qui doit prouver sa bonne foi. La Chine, qui se retrouve au centre du conflit entre les deux pays, tente de jouer la carte de la médiation. Il est annoncé dans les prochains jours la tenue d'une réunion du comité inter-État béninisien de pilotage du projet au fin d'examiner les sujets urgents liés à la bonne conduite des opérations d'exploitation du pipeline. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Une délégation américaine de haut niveau est arrivée à Niamey pour discuter du plan de retrait des troupes américaines exigé par le régime au Niger. Cette délégation conduite par Christopher Mayer, adjoint au secrétaire à la Défense chargé des opérations spéciales et des conflits de faible intensité, a été reçue mercredi par le ministre nigérien de la Défense. Le général Salifou Modi a annoncé le ministère nigérien de la Défense. Le projet de retrait sera discuté avec des experts militaires nigériens et vise un retrait en ordre et en toute sécurité dans les meilleurs délais des soldats américains, assure le ministère. Les États-Unis ont déclaré mercredi qu'ils imposeraient des sanctions à l'encontre de deux commandants des forces paramilitaires au Soudan. De plus, Washington affirmait exercer des pressions pour empêcher ces forces de lancer une offensive à El Fasher au Darfour. Mohamedou Oumfa.
Le Trésor américain a annoncé geler les avoirs aux États-Unis et interdire les transactions d'Ali Yacoub Dibril et Ousmane Mohamed Hamid Mohamed, deux paramilitaires de haut rang des FSR, forces de soutien rapide. Nous sommes prêts à prendre des mesures supplémentaires contre ces individus et institutions qui poussent à l'escalade dans cette guerre, y compris toute attaque à El Fasher, a déclaré le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, dans un communiqué. Les opérations militaires des FSR visant à encercler et assiéger El Fasher dans le Darfour Nord a mis en danger des centaines de milliers de vies, a-t-il ajouté. Depuis plusieurs semaines, la communauté internationale met en garde contre un carnage imminent à El Fasher, dernière grande ville du Darfour à ne pas être aux mains des FSR et qui était jusqu'alors relativement épargnée. Des affrontements ont commencé vendredi avec des avions bombardant l'est et le nord de la ville et des échanges de tirs d'artillerie selon les habitants.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden et son rival Donald Trump ont convenu de participer à deux débats avant l'élection présidentielle de novembre. Les deux confrontations sont prévues pour le 27 juin et le 10 septembre. Didi Dico.
Le président américain a été le premier à défier son prédécesseur mercredi matin. Il dit qu'il veut à nouveau débattre contre moi. Dans ce cas, fais-moi plaisir, mon gars, je le ferai même deux fois, a lancé Joe Biden, candidat à un second mandat dans un message vidéo. Son adversaire Donald Trump, qui réclamait depuis longtemps un duel télévisé, a immédiatement relevé le défi. Dis-moi quand, je serai là, c'est parti pour la bagarre. CNN organisera et diffusera le débat du 27 juin à Atlanta. La chaîne a précisé que l'échange aura lieu sans public, une formule qui a la préférence de Joe Biden. Le camp Biden a fait valoir que le premier débat doit avoir lieu tôt pour tenir compte des Américains qui votent de manière anticipée. La chaîne concurrente ABC accueillera le débat du 10 septembre. Les débats présidentiels sont des temps forts de la campagne américaine. Ce sera l'occasion de tester la vivacité et l'endurance intellectuelle des candidats les plus âgés à avoir jamais brigué la Maison-Blanche.
De plus en plus de puissances étrangères cherchent à influencer l'élection présidentielle de novembre aux États-Unis. A prévenu mercredi, la chef du renseignement américain assurant toutefois que le pays n'avait jamais été autant prêt à faire face aux tentatives d'ingérence. Le président Joe Biden va multiplier d'ici dimanche les hommages aux grandes luttes menées pour les droits civiques aux États-Unis. Ce jeudi, le président démocrate recevra ainsi des plaignants d'une procédure judiciaire emblématique du combat contre la ségrégation scolaire. Biden entend expliquer qu'il faut continuer à développer ses libertés et les droits chèrement acquis par les Africains-Américains, a dit mercredi la Maison-Blanche. Demain vendredi, Joe Biden ira prononcer un discours au Musée national de l'histoire et de la culture africaine-américaine à Washington. Des responsables américains ont déclaré mercredi qu'une quantité considérable d'aide humanitaire attend d'être expédiée vers Gaza dès que les États-Unis ouvriront leur port artificiel, tout en appelant à la réouverture urgente du point de passage terrestre vital de Rafah. Michel Claire-Joseph.
Aujourd'hui, des centaines de tonnes d'aide sont prêtes à être livrées et des milliers de tonnes d'aide sur le point d'être acheminées, a déclaré Brad Cooper du commandement militaire américain pour le Moyen-Orient lors d'une conférence de presse. Le président américain Joe Biden avait annoncé en mars la mise en place de cette structure provisoire face aux sévères restrictions des livraisons d'aide par voie terrestre imposées par Israël au territoire palestinien assiégé et dévasté par plus de 7 mois de guerre. Les responsables américains ont par ailleurs confirmé que le port temporaire serait opérationnel dans les prochains jours, l'aide devant être chargée à Chypre avant d'être déchargée à Gaza. Selon Brad Cooper, les États-Unis ne toléreront aucune attaque sur leur installation, affirmant prendre la sécurité des militaires et des travailleurs humanitaires très au sérieux, l'ONU et les ONG ayant à plusieurs reprises reproché à Israël d'avoir visé leurs employés ou des locaux. Le port artificiel d'un coût d'au moins 320 millions de dollars, à l'instar d'autres initiatives alternatives, ne peuvent se substituer à un afflux d'aide par voie terrestre, préviennent l'ONU et les organisations humanitaires.
L'armée israélienne poursuit ses opérations dans le nord de la bande de Gaza et dans certains secteurs de Rafah, menacés d'une offensive israélienne d'envergure contre le Hamas, qui est là pour durer selon son chef. Les dirigeants de la Ligue arabe se retrouvent ce jeudi à Manama, à Bahreïn, pour un sommet dominé par la guerre à Gaza. Ils s'étaient déjà réunis en novembre en Arabie Saoudite et avaient condamné l'offensive d'Israël. L'Afrique du Sud doit demander ce jeudi à la plus haute juridiction de l'ONU d'enjoindre Israël de cesser son incursion à Rafah, une opération qu'elle a qualifiée de génocide, menaçant la survie même des Palestiniens en tant que groupe. Israël, qui recuse les accusations sud-africaines, y répondra demain, vendredi. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco, présentée ce matin par Lionel Lunanila Gahima.
Le Bénin a autorisé à nouveau l'exportation de pétrole nigérien via son port de Sémé, a annoncé mercredi son ministre de Mines, Samou Seydou Adambi, débloquant une situation tendue depuis plusieurs mois entre Porto Novo et Niamey. Cette autorisation ponctuelle et provisoire ne saura être une règle de conduite, a prévenu le ministre, faisant comprendre que Porto Novo pourrait à nouveau suspendre son autorisation en cas de manque de coopération de la part du Niger, notamment sur la réouverture totale de leurs frontières communes. Le gouvernement sénégalais a annoncé la suspension pour 2 mois de toutes les constructions sur le littoral de Dakar et sa région, confirmant une mesure saluée par les défenseurs de l'environnement face à la bétonisation de la côte. Il a aussi décidé de créer une commission chargée de vérifier la légalité des titres délivrés pour toutes les occupations du domaine public maritime, indique le cabinet du Premier ministre Ousmane Sonko. La suspension suscite cependant des interrogations dans les milieux économiques, puisque la construction fait travailler plusieurs ouvriers. L'Égypte dit avoir reçu 14 milliards de dollars des Émirats arabes unis en tant que deuxième paiement pour le développement de la péninsule de Ras al-Hikma, de 200 km à l'ouest d'Alexandrie. L'accord comprend un total de 35 milliards de dollars d'investissement.
Et sans transition, nous passons directement à votre page des sports. Et ce matin, c'est avec Nanit Talani. Bonjour Nanit.
Bonjour Eric. Bonjour à tous.
Qualification de la CAN U17, édition 2025. 2 rencontres prévues aujourd'hui dans la zone UFOAB. Hier, le Ghana, pays hôte, a battu la Côte d'Ivoire 5-1 lors du match d'ouverture.
Les Nigérians, champions en titre, se préparent à une bataille féroce dans le groupe B pour essayer de conserver leur couronne. Ils font leur entrée contre le Burkina Faso alors que le Togo affronte le Niger. Dans le groupe A, la Côte d'Ivoire, qui n'est plus parvenue à disputer une CAN des moins de 17 ans depuis 2015, a très mal démarré les qualifications de l'édition 2025 en encaissant 5-1 hier au Legon Stadium d'Accra face au Ghana, pays hôte de ce tournoi qualificatif en zone UFOAB.
L'entraîneur-chef de l'athlétisme national kenyan, Julius Kigwa, préoccupé par la fermeture imminente des stades au Kenya, les athlètes ont jusqu'au 30 juin pour se qualifier pour les JO de Paris.
Nous sommes complètement dans le flou en ce qui concerne la préparation des JO. Le stade d'Ulinzi n'est pas un lieu de compétition certifié, a déclaré Julius Kirwa. C'est dans ce petit stade militaire d'Ulinzi de Nairobi, qui n'est pas reconnu par le World Athletics, que se dérouleront les championnats nationaux d'athlétisme du Kenya, qui servent de test aussi pour les championnats d'Afrique seniors d'athlétisme de juin au Cameroun, à cause de la fermeture des stades par le ministère kenyan des sports pour rénovation en vue de la CAN, que le Kenya va organiser conjointement avec l'Ouganda et la Tanzanie en 2027. Jusqu'à présent, 67 Kenyans, 45 hommes et 22 femmes se sont qualifiés pour ces JO.
Enfin, Anit, la FIFA a mis à jour les Coupes du Monde féminines des clubs et de futsal de 2025, ainsi que la Coupe du Monde féminine et masculine U17 et la Coupe arabe.
À l'occasion de son 74e congrès tenu à Bangkok en Thaïlande, la FIFA a proposé que l'édition inaugurale de la Coupe du Monde féminine des clubs soit disputée par 16 équipes en janvier-février 2026. Le tournoi sera organisé tous les 4 ans. Une compétition supplémentaire de clubs féminins de la FIFA sera organisée lors des années sans Coupe du Monde de ces clubs à partir de 2027. La première édition de la Coupe du Monde féminine de futsal 2025 aura lieu aux Philippines.
C'était la page des sports avec Nani Tetalani. Vous êtes à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manila Kidza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Dans l'est de la RDC, la République démocratique du Congo, les 35 victimes d'un tir d'artillerie qui a frappé le camp de déplacés de Mugunga, près de Goma, ont été inhumées à Goma mercredi. Une délégation gouvernementale de Kinshasa et les habitants locaux ont assisté aux funérailles, appelant les autorités à agir pour mettre fin au conflit. Zanem Netizaidi donne plus de détails dans son reportage.
Aux premières heures de la matinée de ce mercredi 15 mai, des habitants de Goma se sont rendus en masse à la morgue de l'hôpital général de Goma pour assister à la levée des corps de certaines victimes des récents tirs d'artillerie dans les camps des déplacés du quartier de Mugunga. Attristés et en colère à la fois, certains ont appelé le gouvernement à prendre des mesures pour éviter d'autres décès. Rodrigue Manegabe est un habitant de Goma.
Vous voyez, parmi les morts, il y a aussi des enfants qui sont innocents. Pendant que les gens meurent ici, nos députés et autres politiciens cherchent des postes à Kinshasa, alors personne ne se soucie du peuple congolais.
Les activistes du mouvement citoyen ont saisi cette occasion pour condamner ces violences avec leur lot de victimes depuis la reprise des combats entre le rebelle du M23 et l'armée congolaise. Ces activistes ont dénoncé le silence de la communauté internationale qui est juste coupable. Dieu merci, Mungwa Konkwa est un activiste.
La communauté internationale, lorsqu'il s'agit d'une agression en Ukraine, vous vous levez. Mais lorsque c'est au Congo, vous vous taisez. Nous sommes partout. Nous disons N.O.N. Vous devez comprendre que les Congolais sont fâchés.
Pour rappel, ces funérailles ont été initialement prévues le dimanche 12 mai et ont été reportées à aujourd'hui, mercredi 15 mai. Les proches des victimes sont satisfaits de cette initiative prise par le gouvernement congolais, mais ils demandent encore plus. Jean Abamungu, proche des victimes.
Ma famille a perdu 9 enfants et une des femmes de mon frère, qui fait un total de 10 personnes. Mon frère est resté seul. Ça fait trop mal, nous ne demandons que la paix au président pour que nous vivions paisiblement.
C'est à l'esplanade du stade de l'unité de Goma où les 35 corps ont été exposés pour les derniers hommages auxquels ont pris part certains membres du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Après, c'est l'enterrement qui s'en est suivi à Kibati, au nord de Goma, où le nouveau cimetière y a été érigé, qui désormais sera considéré comme un mémorial des victimes de la guerre du M23. Zanem Netizaidi, à Goma, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Goma sur 96.2 FM.
D'ici la fin de cette année, les Camerounais pourront obtenir leur carte nationale d'identité en seulement 48 heures grâce à un nouveau partenariat entre la Délégation générale à la Sûreté nationale et une structure qui mettra en place un système d'identification sécuritaire. Cette initiative intervient alors que des millions de Camerounais sont actuellement sans cette pièce officielle. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jultap.
Je suis allé faire la carte en 2021 et depuis ça ne sort pas. Ce n'est que le récépissé.
La situation de Janine Mendogo, une résidente de Yaoundé, est loin d'être cas isolé. Julienne Ondoa est une gouvernante de maison. Son expérience est encore complexe.
Moi, j'ai fait ma carte en 2017. La première fois, j'avais fait les nouvelles cartes qui étaient sorties. Donc, quand j'ai perdu donc celle-là, en 2017, depuis 2017 que j'ai fait les cartes, ça ne sort jamais.
Cette situation n'est pas sans conséquence pour les citoyens. Olive Mingot est originaire de l'une des deux régions anglophones. Durant ses déplacements, elle raconte comment le fait qu'elle soit sans carte nationale d'identité lui a porté préjudice.
Maintenant, quand je voyageais, je payais souvent 1000 francs. Quand j'étais à Douala, au niveau de Bangoum, oui, je payais 1000 francs. Et à Boulaberry, Douala, avant d'entrer au Sud-Ouest, là encore, il me fallait donner l'argent pour que j'arrive à la destination. Et moi, j'ai fait la carte deux fois. En 2016, j'ai fait la carte. En 2019, j'ai fait la carte. Et ça n'est jamais sorti, mais il y avait que les récépissés que j'avais.
Dès décembre prochain, un nouveau système d'identification sécuritaire entrera en vigueur au Cameroun. Les Camerounais pourront se faire ainsi délivrer la carte nationale d'identité sous 48 heures. Labino Karuti, directeur général de la société en charge de mettre en place ce nouveau système d'identification.
C'est un projet clé en main qui consiste à la construction de 68 centres multifonctionnels ultramodernes à travers les 10 régions et les 58 départements. En plus, on va rénover 219 postes actuels d'identification. On va mettre en place une structure moderne. Il y a tout qui va changer. Ça va commencer par une application en ligne dématérialisée, prise de rendez-vous en ligne. On va assurer aussi l'expédition des cartes à travers tous les postes d'identification dans le territoire camerounais.
Des centres de production seront implantés à Douala, Garoua et Yaoundé et dans les autres chefs-lieux de région et de département. Une bonne nouvelle pour Régis Kerbaï. Ce Camerounais s'interroge néanmoins sur le bien fondé de confier les données d'identification d'un pays à une entreprise étrangère.
Et même les passeports également, ces données-là qui sont enregistrées, c'est une société, une entreprise étrangère qui fait cela. Et ce n'est pas du tout bon de savoir que les données des hommes et des femmes d'une nation soient connues, gérées par des entités étrangères. Et ce n'est pas du tout bon. Surtout avec, vous savez, nous sommes à l'aube d'une transition, qu'on le veuille ou pas, avec le régime en place.
Les autorités de la police ont indiqué que quelques 3 millions de Camerounais ont une double identité, voire triple identité, et ces derniers refusent de se faire valider leur identification authentique, car ayant développé d'autres avantages avec leurs multiples identités. Rien n'a filtré sous le coup de la carte nationale d'identité par pré-enrôlement. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Le 15 mai marque une première au Burkina Faso avec la célébration de la journée des coutumes et traditions. Cette journée, désormais chômée et payée, vise à permettre aux adeptes de la religion traditionnelle, souvent marginalisés, de renouer avec leur héritage culturel. Cette initiative gouvernementale est saluée par les traditionnalistes et perçue par les historiens comme la fin d'un cycle et le début d'une nouvelle ère. La correspondance de Lamine Traoré, notre correspondant à Ouagadougou.
Ici au Musée National, espace de protection et de promotion du patrimoine culturel au Burkina Faso, des habitats traditionnels de plusieurs ethnies et leur histoire pour rappeler aux visiteurs les habitudes, les comportements et le mode de vie dans le temps. De l'autre côté, cet artiste conteur, adepte des questions de coutumes et de traditions, se prépare à livrer un spectacle. Il est soulagé quand il apprend que le gouvernement a institué une journée des coutumes et traditions. Pegluende Gérard Kitega, d'IKPG, conteur forgeron, ambassadeur du patrimoine culturel burkinabé.
Cette commémoration permettra de nous reconnecter avec nous-mêmes, nous reconnecter avec notre histoire, nous reconnecter avec notre origine. Et en tant qu'ambassadeur du patrimoine, c'est une belle opportunité pour nous, en tout cas, de pouvoir nous exprimer. Il faut que l'Africain se reconnecte avec lui-même. Il faut que l'Africain se renoue avec ses ancêtres, avec sa spiritualité, avec ses origines.
À l'occasion de cette journée des coutumes et traditions, se tient un colloque sur la spiritualité, les traditions et les pratiques coutumières au Burkina Faso. Objectif, analyser la spiritualité, les traditions et les coutumes en lien avec la culture et les pratiques endogènes au Burkina. Pour les spécialistes, il s'agit de la fin d'une civilisation, d'un nouveau monde confronté à une fin de cycle historique. Bruno Sanou, enseignant-chercheur historien.
Quand on est à la fin d'un cycle historique, à la fin d'un monde, ben, on est engagé à la création d'un nouveau monde. Et l'Afrique ne peut pas se mettre en dehors de cela. Et pour créer le nouveau monde, il faut repartir dans le passé pour retrouver les matériaux que constitue ce nouveau monde. Je suis chrétien catholique, mais j'ai dit qu'il ne faut pas stigmatiser nos gens traditionnels, bon, souvent de sataniques et ce qui en suit, des polythéistes. Non, Il faut repenser.
Le gouvernement affirme vouloir placer la culture, notamment les coutumes, au cœur des initiatives de développement. Mokhtar Sanfo, directeur général de la culture et des arts.
Les adeptes de la religion traditionnelle se trouvaient marginalisés. Ils se trouvaient donc dans une situation où ils n'étaient pas à mesure donc de promouvoir comme il le faut les coutumes et les traditions. Cela vient aussi compléter, j'allais dire, la vision donc de l'État en matière donc de laïcité qui veut que toutes les croyances, toutes les religions soient mises au même pied d'égalité.
Désormais au Burkina, la journée des coutumes et traditions sera célébrée chaque 15 mai. Ainsi en a décidé le gouvernement. Le capitaine Ibrahim Traoré, lui, s'est rendu ce jour au musée national. Il a invité les Burkinabés et les amis du Burkina Faso à inscrire dans leurs habitudes la visite des sites du patrimoine afin de mieux connaître les origines, l'histoire et la culture du Burkina. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Le Festival international du cinéma de Cannes, ouvert le mardi 14 mai en France, se poursuit, malgré la présence de milliers d'artistes français demandant une meilleure protection sociale. Il est remarqué qu'aucun film africain ne concourt pour la Palme d'Or cette année, contrairement à l'année précédente où deux films africains figuraient sur la liste. Pour en savoir plus sur le déroulement du festival dédié au 7e art, Georges Léonard Sagnou a joint Oleg Vorontsov, un passionné de cinéma présent sur place.
Bon, on note une certaine résilience. Le principal retrait par rapport à l'édition précédente, c'est le fait qu'il n'y a pas de films africains qui sont en compétition pour la Palme d'Or. En 2023, il y avait deux réalisatrices qui étaient dans la compétition officielle, la tunisienne Kawther Ben Hania et la franco-sénégalaise Ramata Taoutoulaïsi. Cette édition 2024 est plutôt marquée par une présence sur les catégories prometteurs, comme Cannes Première, une manifestation récente dédiée au cinéma français expérimental, avec notamment le Marocain Nabil Ayouch, qui présente un film qui s'appelle « Tout le monde aime Toudart », qui dresse le portrait d'une artiste traditionnelle marocaine, une Cheikha, ou le cinéaste brésilo-algérien Karim Aynouz, dont la nouvelle production est présentée hors compétition. Ce qui est très intéressant, c'est que Triarif Frémaux, depuis 2021, a identifié donc une nouvelle génération de cinéastes africains de l'Est, de l'Ouest et de l'Afrique subsaharienne, alors que l'Afrique du Nord est traditionnellement présente depuis les années 90. Dans la sélection Un Nouveau Regard, qui est consacrée principalement à la jeune garde du cinéma mondial, on trouve notamment le Somalien Mo Haroué, qui trace le portrait d'une famille qui survit au chaos du pays. La réalisatrice zambienne Rungano Nyoni, elle traite les rapports très délicats entre les hommes et les femmes dans son pays. C'est un très très beau film, je vous invite à le voir. Et on trouve également le franco-marocain Saïd Amish, qui parle d'une histoire d'un jeune immigré qui rencontre un policier et dans cette rencontre à Marseille va bousculer complètement la vie, ou encore d'un court-métrage à Lazare de l'Éthiopien Bezou Heilou Lema qui figure dans cette compétition. On notera enfin la présence dans les sections parallèles, comme la quinzaine des cinéastes, d'un seul film africain. Par ailleurs, il y en a dans les Caméras d'Or, où on peut noter une petite présence de l'Afrique dans le jury, avec le franco-sénégalais Omar Sy, membre du jury de la compétition officielle, la réalisatrice marocaine Asmaï Al-Moudir et son homologue sénégalaise Maïmouna Doucouré, qui font partie du jury Un Certain Regard, qui porte sur les films prometteurs. De son côté, l'actrice rwandaise Eliane Oumou Ihire participe à la jury de la semaine critique. Et le rappeur réalisateur belgo-congolais Belogi co-préside, lui, le jury de la Caméra d'Or, qui récompense un premier film toute compétition confondue. Donc oui, le cinéma africain est bien présent, moins que l'an dernier. On note une résilience cependant.
Avec l'explosion des nouveaux médias, des réseaux sociaux, en somme, on constate aussi une nouvelle émergence de réalisateurs africains, n'est-ce pas?
On espère que cette émergence du cinéma africain va se faire dans les meilleures conditions, notamment de financement. On sait que l'Afrique est un terreau naturel pour faire des belles productions dans des paysages splendides. Ça a été le cas pendant le XXe siècle. On pense notamment à Il était une fois out of Africa, Il était une fois en Afrique. On pense à d'autres grands films. On espère que le cinéma lui-même va s'auto-alimenter, trouver de nouvelles sources de production des nouvelles sources de financement et que le Festival de Cannes consacrera cette émergence d'une nouvelle filière pépinière de talents africains.
C'était Oleg Vorontsov, un passionné de cinéma. Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Manirakiza à son micro. Michel Claire-Joseph a assuré la production et la réalisation à la console Nashwan Kale. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur votre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.